On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur Jésus, Seigneur, on est ici pour se pencher sur ta parole et entendre ce que tu veux nous dire. Comment tu veux, Seigneur, venir nous faire grandir à travers l'expérience de Paul et l'histoire de son cheminement spirituel, sa conversion à lui, qui est tellement dramatique, tellement incroyable et miraculeuse, Seigneur. Seigneur, tu es venu vers lui, tu t'es avancé vers lui dans son zèle, dans ses certitudes, il était incapable de te découvrir, toi que les Juifs attendaient depuis tant de siècles. Mais dans ta grâce, par pure bonté, alors qu'il pourchassait les chrétiens, tu es venu vers lui, Seigneur. Tu es venu à sa rencontre et tu lui as ouvert les yeux du cœur pour saisir que tu es ce sauveur tant attendu. Seigneur, je te demande de nous remplir d'espoir ce matin. D'espoir pour ceux autour de nous qui sont remplis de certitudes, qui les empêchent peut-être de se rendre à toi et de te connaître, Seigneur. De nous remplir aussi de reconnaissance parce que tu as fait ces premiers pas vers nous, Seigneur. C'est toi qui es venu vers nous. Et je te prie, Seigneur, de venir rencontrer des gens ce matin à travers ce message de ta parole. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors ce matin, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus, qui est définitivement, on dirait le fondateur du christianisme, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus rencontre un intégriste, d'accord? Qu'est-ce qui se passe lorsque le fondateur du christianisme rencontre un intégriste? Et je veux juste commencer par définir qu'est-ce que j'entends par intégrisme, de quoi on parle. C'est pas tout le monde qui est familier même avec ce terme-là. Je vais le résumer comme ça, d'accord? Puis après ça, on va mettre ça dans notre contexte ici au Québec. Sur la planète, il y a toutes sortes de formes d'intégrisme. Mais lorsque je parle d'un intégriste, je parle d'une personne qui est tellement convaincue qu'elle a la vérité qu'elle en est aveuglée. La conviction est tellement forte que cette personne-là possède la vérité, ses certitudes sont arrêtées, qu'elle en est aveuglée. Et comment ça se traduit concrètement, même dans les relations avec les gens? Cette personne est incapable d'écoute de l'autre, n'est pas capable d'entrer dans un dialogue avec l'autre personne. Ses certitudes l'empêchent de dialoguer. Parfois même, ça va porter certaines personnes à être agressives, voire violentes, à cause de leurs certitudes. Et je dirais comme ça, sa défense de ses convictions, parce que c'est pas là qu'est le problème, c'est certainement pas d'avoir des convictions, mais sa défense de ses convictions se transforme en attaque contre les autres pour les écraser. D'accord? Il y a plus de dialogue, il y a pas d'échange, il y a pas de possibilité d'échange. Au lieu de ça, ce qui a pris place de ça, c'est une espèce de mépris. Mépris de l'autre, voire même une haine agressive, comme s'il fallait écraser ça. Et lorsqu'on pense à l'intégrisme ou à des intégristes dans le monde, bien, on peut avoir toutes sortes d'images qui nous viennent à l'esprit. Puis cette semaine, on réfléchissait à ça. Puis, par exemple, évidemment, Hitler, c'est une image que j'avais même pas pensé puis qui est sortie lorsqu'on connaît la Deuxième Guerre mondiale. On sait que c'était une guerre idéologique en même temps qu'elle est une guerre économique. Et donc, il y avait vraiment l'intention d'exterminer un peuple entier, d'exterminer le peuple juif. Et donc, ça allait dans ce sens-là. Mais il y a toutes sortes d'autres images qui peuvent nous venir à l'esprit lorsqu'on va penser, par exemple, à l'intégrisme, d'accord? On va penser aussi aux victimes de mouvements intégristes qui vont être violents. Maintenant, on a des images qui peuvent être ailleurs, des fois dans d'autres religions, mais ça ne veut pas dire que le christianisme est entièrement à l'abri de ça non plus. Alors, si vous suivez un petit peu les médias, il y a un an ou deux, je ne me souviens plus exactement, il y a un pasteur américain, un pasteur Jones, qui a décidé, lui, qu'il brûlait publiquement le Coran. Qu'est-ce que ça fait avancer de se comporter comme ça? En quoi ça aide à aller vers l'autre puis pouvoir lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ que de commencer à brûler le Coran, d'accord? Alors, il n'y a personne qui est à l'abri de cette espèce d'attitude-là extrêmement agressive. Maintenant, si on pense au Québec, mais lorsqu'on regarde ces images-là, on se dit c'est pas une réalité pour le Québec. Nous, on vit pas ça au Québec, d'accord? On n'est pas extrémiste comme ça, on n'est pas agressif comme ça, on n'est pas en train de vivre ça au Québec. Alors, je dirais que si on veut trouver un équivalent, ici au Québec, ça ne sera pas nécessairement de la violence physique. Ça serait vraiment exceptionnel, ça peut arriver, mais rarement ça va être le cas. Ça va davantage être une violence psychologique, de la pression qu'il va y avoir. Alors, si on voulait donner un exemple, on pourrait penser à un gars au travail qui est tellement convaincu de tout ce qu'il croit, il a toutes ses certitudes, qu'il en vient à harasser d'autres collègues de travail qui ont d'autres croyances. Il y a un mépris, il y a un désir de se moquer de l'autre, de le coincer, de s'assurer que les autres collègues de travail vont embarquer avec lui pour mépriser la foi d'un. Si vous avez fait vos cours au cégep et vous avez pris des cours de philo, ben on pourrait l'illustrer comme ça. Ça pourrait être un prof de philo qui, utilisant le pouvoir de sa position, affiche clairement son mépris profond pour toute croyance autre que, admettons, le matérialisme ou l'athéisme, d'accord? Et donc, il va se servir de son pouvoir pour mépriser. Je ne sais pas combien de jeunes m'ont dit qu'ils l'ont vécu. Moi-même, je l'ai vécu. Il y a un mépris de tout ce qui est croyance, comme si c'était quelque chose de méprisable. Et donc, il n'y a pas de place pour le dialogue. Pourtant, on est dans un cours de philo. D'accord? Il devrait, c'est là que tu veux dialoguer, c'est dans un cours de philo. Mais il n'y a pas de place pour ça. Parce que cette attitude, qui est une forme d'intégrisme, où je vais écraser l'autre et je me sers de mon autorité pour écraser les autres, il n'y a pas de place pour le débat. D'accord? Donc, vous pouvez le vivre avec des amis. De plus en plus, on va le voir à la télévision, par exemple. Et c'est vraiment des phénomènes de société. Alors, de plus en plus à la télévision, ce qu'on observe, c'est que c'est à la mode cette attitude-là qui va être méprisante de toute croyance. Et ça peut être drôle, ça peut bien mettre une bonne atmosphère dans un show lorsque quelqu'un est en train de mépriser toute forme de croyance. Ces choses-là, c'est pour le privé, puis on va même percevoir que c'est une nuisance pour la société. Alors voyez-vous, ça sera peut-être pas avec des actes violents comme on montrait tout à l'heure, ça sera peut-être pas au nom d'une religion quelconque, mais cette attitude qui dit « moi j'ai mes convictions sont les meilleures, les autres sont méprisables, j'ai pas besoin de dialoguer avec eux, ce que tu crois c'est une nuisance », on peut le trouver n'importe où en fin de compte. On peut le trouver dans des religions, c'est vrai, comme j'ai dit, même le christianisme n'est pas à l'abri de ça, mais on peut le trouver dans n'importe quoi, parce que fondamentalement, c'est cette attitude qui dit « ce que je crois, c'est la vérité, puis ce que tu crois, c'est méprisable ». Et donc, on n'est pas dans un débat, on n'est pas dans des discussions. Et encore une fois, je ne suis pas en train d'évacuer, de dire « il ne faut pas avoir des bons débats ». Des bons débats d'idées costauds, les Québécois ont peur de ça souvent. On dit ça, n'est-ce pas? Les Québécois ont peur de débattre d'idées sérieusement. Non, parce que tout de suite, on va offenser les autres. Non, ça c'est génial, il faut le faire, il faut aller là. Mais je passe un certain point lorsque je décide que je me sers de ma position pour pouvoir écraser l'autre et évacuer toute possibilité d'avoir une discussion. Ce matin, on va voir ensemble qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus, qui est le fondateur du christianisme, rencontre un intégriste. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus rencontre un intégriste? Puis je vous le dis tout de suite, en québécois, on dirait ça comme ça, il est viré bout pour bout. L'intégriste est transformé dans son attitude. C'est un homme nouveau lorsqu'il rencontre Jésus. On aurait pu s'attendre à autre chose. Jésus, c'est celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Hey, est-ce qu'il n'est pas lui-même très arrêté dans ses convictions? Oui, mais il y a toute une question d'attitude. Qu'est-ce qui arrive lorsque Jésus rencontre un intégriste? Il est complètement transformé, il va être changé de direction complètement, mais dans son attitude de cœur aussi. Alors ce matin, on regarde ensemble Paul comme un intégriste, comme quelqu'un qui est agressif. Et je veux prendre le temps juste de définir ça avec Paul, de voir ça dans le texte, parce que je suis conscient que pour plusieurs d'entre vous, on est attaché à ce personnage-là. C'est le personnage principal du livre des Actes après Jésus. Il passe avant Pierre, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme que j'aime beaucoup. Puis que Yannick, le pasteur en avant, sont en train de dire que Paul, c'est un intégriste. Ouf, il y a quelque chose peut-être de choquant dans ça. Mais on va aller voir ensemble dans le texte, je crois vraiment que Paul lui-même se dépeint comme un individu convaincu, mais convaincu au point de ne pas être capable de voir la vérité, donc aveuglé par ses convictions, orgueilleux, violent, agressif. C'est comme ça que lui-même se dépeint dans ce passage et on va aller le voir ensemble ce matin. Alors, où est-ce qu'on retrouve Paul? Bien, Paul est à Jérusalem. On est arrivé dans ce passage-là la semaine dernière. Paul arrive à Jérusalem, c'est un retour pour lui après des années à l'extérieur. Il vient à Jérusalem et puis Paul est juif, alors il a fait un vœu et puis il va accomplir ses vœux envers Dieu. Alors il va au temple pour ça et lorsqu'il va au temple pour accomplir ses vœux, des juifs, des gens de sa nation le voient là. Et ces gens-là ont entendu dire sur Paul que partout où il voyageait, ce qu'il enseignait aux non-juifs et aux juifs là-bas, c'est qu'il devait renoncer, abandonner complètement tout l'Ancien Testament. Toute la première partie de la Bible devait rejeter ça, rejeter les lois des juifs, rejeter les coutumes juives, la culture juive. C'est ce qu'ils ont entendu sur Paul. Non seulement cela, mais parce qu'ils ont vu Paul se promener en ville avec des non-juifs, on dit des païens à l'époque, avec des non-juifs. Ils sont convaincus que Juif a introduit, il a amené des non-juifs dans des sections interdites à l'intérieur du temple. Il y avait des secteurs où seuls les juifs pouvaient entrer et donc il en aurait fait pénétrer quelques-uns dans ces départements-là, dans ces secteurs-là. Ce qui est faux aussi. Mais la foule est convaincue de ça, le surprend à l'intérieur du temple, s'attaque à lui, le tire à l'extérieur du temple, commence à le battre. Comme je dis, il n'y a pas de discussion là, commence à le battre et cherche à le mettre à mort. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Un officier romain, Israël est sous l'Empire romain à ce moment-là, c'est eux qui régulent, qui maintiennent la loi. Un officier romain vient avec ses soldats, réussit à arracher Paul à la foule qui est en train littéralement de le lyncher, et puis ils lui mettent des fers, ils veulent l'amener à l'intérieur de la citadelle romaine pour pouvoir l'interroger, parce que c'est impossible de le faire à ce moment-là. La foule est complètement hystérique, veut vraiment le mettre à mort. Et donc, ils sont en train de l'amener à l'intérieur de la citadelle et ils commencent à monter des gradins pour rentrer à l'intérieur. Et Paul, comme j'ai dit la semaine dernière, qui en manquait pas une pour annoncer l'Évangile, tape sur l'épaule de... Il est enchaîné, on s'entend. Je sais pas comment il l'a fait, mais il a attiré l'attention de l'officier romain puis il a dit, « Est-ce que je peux m'adresser à la foule? » Et là, Paul va s'adresser à la foule à ce moment-là. Et il va leur partager son histoire. Et clairement, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, je fais une parenthèse. Dans quelques instants, on va voir ensemble comment Paul se décrit lui-même. Et je pense vraiment que ça le classe parmi des attitudes intégristes, violentes, tout ça. On va voir ça dans quelques instants ensemble. Je veux juste prendre le temps de souligner quelque chose que Paul fait ici, qu'il fait tout le temps parce qu'on a énormément à apprendre de ça. Paul est définitivement un homme brillant pour annoncer l'Évangile. Et je veux souligner quelque chose qu'il fait dans son attitude parce que, là je m'adresse à l'Église. On a besoin d'apprendre de Paul pour savoir comment présenter l'Évangile, comment annoncer la bonne nouvelle à des gens. Et Paul fait quelque chose d'extrêmement brillant ici, mais c'est dans son habitude. Il l'a fait ailleurs dans le livre des Actes, on l'a vu. Ce que Paul fait, lorsqu'il veut annoncer l'Évangile à quelqu'un, il prend le temps de s'identifier avec les gens à qui il veut annoncer l'Évangile. Paul prend le temps de trouver des points communs entre eux. Il fait constamment ça. Au lieu de commencer à dire « Ma gang de cocombes, vous n'avez rien compris, vous ne savez pas c'est quoi la vérité, je vais vous expliquer que Jésus est la vérité, le chemin et la vie », il va falloir qu'ils en viennent à ça. Si Jésus est le chemin pour aller au Père, il va falloir qu'il en vienne à dire ça. Mais au lieu de commencer en disant, ma gang de vous savez rien, puis vous n'avez pas compris, il y a des choses que vous ne voyez pas, il commence par s'identifier à eux. Maintenant, je vous rappelle le contexte, d'accord? C'est super important. Ces gens-là, là, quelques instants, étaient en train d'essayer de l'assassiner. Ces gens-là étaient extrêmement violents, ils voulaient le tuer. D'accord? On n'est pas dans une situation avec un collègue de travail ou avec quelqu'un dans la famille, tu sais, qui est toujours en train de te narguer à cause de ta foi, puis tu es en train de prendre un café avec, puis tu voudrais parler de l'Évangile, puis encore une fois, il t'attaque, puis comprenez? Puis là, c'est tentant simplement de dire, regarde, je vais te dire tes quatre vérités, là, mon homme, tu ne l'as pas pantoute. T'as-tu vu comment ta famille elle, se comporte? T'as-tu vu tout ce qui est en train de tomber autour de toi? Je pense que tu n'as pas la vérité. Parce que la tentation est là de faire ça. Mais Paul est en train de se faire battre. Ces gens-là veulent le tuer. Il sait qu'il est citoyen romain, on lui a mis les fers, mais il rentre en dedans, il sait très bien, une fois à l'intérieur, tout ce qu'il a à faire, c'est de dire, je suis citoyen romain, j'en appelle à Rome. Pouf, ils vont le sortir de Jérusalem. Il va être transporté à Rome, il va aller comparaître devant César. Il a sa porte de sortie, il est en sécurité. Il aurait pu, à ce moment-là, se laisser aller puis dire, ma gang de cave, vous réalisez pas que Jésus est le sauveur qu'on attendait? Mais c'est pas ça que Paul fait. C'est pas ça que Paul fait. Paul commence par s'adresser à eux en hébreu, simplement pour aller dans leur langue. Il aurait pu continuer en grec, il aurait pu parler en grec, ils étaient habitués que les autorités romaines leur parlent en grec, ils vont les rejoindre dans leur langue. Lorsqu'il s'adresse à eux, il commence en disant « homme, frère ». Il s'adresse à eux avec respect. Est-ce que ces gens-là méritent son respect à ce point-ci? Ils sont en train d'essayer de le tuer, vous comprenez? Mais il s'adresse à eux avec respect, « homme, frère ». Et puis, il va chercher dans tout ce que ces gens-là croient, les points communs qu'ils ont. Il fait quelque chose, à mon avis, c'est assez fou, mais il voit dans leur zèle, à essayer de le tuer, un zèle pour Dieu, puis il voit là-dedans quelque chose de spirituel. Il dit, moi aussi, j'étais comme vous, rempli de zèle pour Dieu. Ils sont en train d'essayer de le tuer, et il trouve quelque chose de spirituel là-dedans parce qu'il reconnaît qu'en réalité, ils sont en train de faire ça au nom de Dieu. Et pour plusieurs d'entre eux, ils sont convaincus de faire la bonne chose à ce moment-là. Et donc, Paul s'identifie à eux. Il prend le temps de s'identifier à eux. Paul avait fait ça à Athènes. Si vous êtes familier avec le livre des Actes, Paul avait fait ça à Athènes. Il s'est identifié avec une foule qui croyait dans toutes sortes de divinités païennes. Il y a encore moins de liens, de points communs entre eux et Paul. Mais Paul prend le temps de dire, « Oui, mais si vous adorez toutes ces divinités-là, c'est que vous adorez un Dieu. Vous cherchez Dieu. Vous cherchez à connaître quelqu'un qui nous est supérieur. » Paul fait constamment ça. Alors, je vais le résumer comme ça. Évangélisation pour les nuls ce matin. D'accord? Évangélisation pour les nuls. Leçon numéro un, prends le temps de t'identifier avec la personne à qui tu t'adresses. Prends le temps de chercher les points communs. Cherche dans ce qu'elle croit, les choses qui sont en accord avec les Saintes Écritures. Et prends le temps de souligner ces choses-là au lieu de le peinturer dans un coin en cherchant tout simplement à aller définir les choses qui sont fausses dans ce qu'elle croit et d'aller l'attaquer directement. Et pour Paul, ça allait de soi de faire ça. Parce que pour lui, l'Esprit de Christ est là, dans un esprit qui est gracieux, qui dit, regarde, on va aller voir qu'est-ce que tu crois qui est vrai, puis on va partir de là ensemble pour aller vers Jésus-Christ. Revenons à Paul. Paul, un gars agressif, aveuglé par son zèle, Paul l'intégriste. Bien, Paul va se définir lui-même, il va se présenter à l'intérieur de ce passage-là, et il se présente comme personne, premièrement. Il commence à se décrire en disant, « Bien, vous savez, moi, la connaissance de la loi, vous dites que je l'attaque, la loi, mais la loi, je la connais parfaitement. J'ai été formé par les meilleurs professeurs, j'ai étudié avec les plus grands professeurs juifs, Gamaliel, je connais la loi. » Et donc, Paul commence par se décrire comme quelqu'un qui connaissait parfaitement la loi, qui connaissait les prophéties, qui connaissait les coutumes juives. Il est en train de dire, « Je connaissais tout ça. » Mais en faisant cela, Paul est aussi en train de dire, j'avais des certitudes, il y avait des choses qui étaient claires pour moi. Et ce qui transpire du texte, c'est que Paul dit, j'avais des convictions extrêmement fortes, tellement fortes que ça me donnait une assurance, des certitudes, qui étaient peut-être aussi l'expression de l'orgueil. Peut-être que ces certitudes-là n'étaient pas une manifestation d'une vraie connaissance de Dieu, mais aussi une manifestation d'orgueil à travers ça. Et Paul va en venir à dire dans le texte que malgré toutes ses connaissances et toutes ses certitudes, sa connaissance de l'Ancien Testament, il avait été incapable de lire dans l'Ancien Testament et de comprendre que des dizaines et des dizaines de prophéties dans l'Ancien Testament annonçaient la venue de Jésus-Christ. À quelque part, Paul est en train de se dépeindre comme un individu qui a des convictions super fortes, mais tellement forte qu'il en est aveuglé. Aveuglé et incapable de voir que cette foi-là, le christianisme qu'il est en train de persécuter, est en fait l'accomplissement de l'Ancien Testament. Parce que des dizaines de prophéties dans l'Ancien Testament annonçaient la venue d'un sauveur. Et lorsque Jésus est arrivé par sa naissance, par son arrivée dans le monde, par sa vie, par sa mort, par les miracles qu'il a fait, par les enseignements qu'il a apportés, c'était possible de voir l'accomplissement de toutes ces prophéties-là. Mais Paul, dans toutes ses grandes certitudes, ses grandes convictions, voire même son orgueil à travers ça, en est venu même à être aveuglé par ça et ne pas être capable de lire et de comprendre ces prophéties. Et c'est comme ça que Paul se décrit ici. Paul va plus loin que ça. Il dit « Mes certitudes m'amenaient à être tellement convaincu que j'étais prêt à détruire tous ceux qui s'opposaient à ce que j'enseignais. » Et puis Paul s'identifie à eux en disant, « Voyez le zèle que vous avez pour me mettre à mort aujourd'hui. Moi, j'étais encore plus zélé que vous. Encore plus zélé que vous. Les autorités que vous servez, les autorités juives, peuvent témoigner n'importe quand. Moi, je ne voulais pas exterminer les chrétiens seulement à Jérusalem. J'allais chercher des lettres pour pouvoir les pourchasser partout dans toutes les villes. » Et Paul dit, « Je persécutais à mort cette doctrine, cet enseignement, et les hommes et les femmes qui le croyaient, je les conduisais en prison. Je persécutais à mort cette doctrine-là. » Paul dit, si vous croyez que vous êtes aidé par la loi de Dieu, pour la loi de Dieu, je l'étais encore plus, parce que moi, je les poursuivais partout dans le monde. Et ce que Paul ne réalisait pas à l'époque où il avait ce zèle-là, ce qu'il réalise maintenant, C'est que son zèle était peut-être grand et était peut-être très fort pour Dieu, mais l'amenait carrément dans l'aveuglement. Son zèle l'aveuglait et l'empêchait de voir clair. Paul ne réalisait pas qu'il était en train de persécuter, de pourchasser le Fils de Dieu. Écoutez ceci. Paul ne réalisait pas qu'il était en train de persécuter le Fils de Dieu à travers les chrétiens, alors qu'il était convaincu de servir Dieu. Ses certitudes et son arrogance l'empêchaient de voir clair. Il disait aimer Dieu, aimer la vérité, mais il était incapable de voir la vérité. Maintenant, je suis certain que dans votre entourage, chez vos amis, dans votre famille, au travail, des voisins, des gens que vous connaissez, il y a des gens qui ont cette attitude-là au nom de leur croyance. Et ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être le matérialisme, ça peut être l'athéisme, ça peut être des convictions religieuses. Mais vous avez des gens autour de vous qui sont tellement confiants et sûrs de leurs convictions, de leurs opinions, qu'ils en viennent non pas être capables de discuter et de débattre ensemble, mais ils en viennent à être agressifs, écrasants, pas capables de respecter l'autre dans ce qu'ils croient, pas capables de s'engager dans un dialogue. Parce que dans le fond, il y a une espèce de mépris pour les autres. Je suis sûr que vous en avez dans votre entourage. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être que vous êtes comme ça. Vos opinions sont tellement fortes, tellement arrêtées, que ça vous empêche de rencontrer Dieu. Simplement de vous arrêter, d'ouvrir la parole de Dieu, d'ouvrir la Bible et d'écouter ce que Dieu peut avoir à vous dire. Parce que vous avez déjà peinturé le christianisme dans un coin, vous avez déjà arrêté tout ce que vous pensez là-dessus. Et peut-être que c'est votre propre attitude. Est-ce que ce n'est pas le cas même de tous les chrétiens? Où pendant un temps, à un moment dans notre vie, il y avait ce refus-là d'entrer dans cette réflexion-là. Et il a fallu que Dieu vienne nous rencontrer pour qu'on puisse s'ouvrir. Pour qu'on puisse s'ouvrir à réfléchir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver avec Paul? Il est fort de ses certitudes, il est en train de persécuter les chrétiens, il connaît la vérité, il sait où il s'en va. De temps en temps, on voit apparaître des moments dans les Écritures où on voit l'humour de Dieu. Vous allez dire, il n'y a pas beaucoup d'humour là-dedans, on est en train de parler de sang qui est versé, de violence, puis toutes sortes d'affaires. Moi, je dis qu'il y a de l'ironie là-dedans. Dieu est ironique, Dieu a le sens de l'humour. Dieu va rendre aveugle, écoutez bien ceci, Dieu va rendre aveugle celui qui croyait qu'il voyait clair pour l'amener à voir la vérité. Et c'est ça qui se passe dans le mouvement, dans le texte ici. Vous avez cet homme-là qui est convaincu qu'il voit tout très, très, très clairement. Et quand Jésus-Christ va apparaître devant lui, il va en perdre la vue. Parce qu'il est incapable de voir la vérité, il est incapable de voir Jésus-Christ en face. Et donc, Dieu va le rendre physiquement aveugle pour ensuite lui redonner la vue physique, mais aussi spirituelle. Il va lui ouvrir, comme Jerry Boulet dit, les yeux du cœur pour qu'il puisse saisir qu'il est en train de persécuter la vérité qu'il prétendait défendre. Et Jésus va devoir ébranler ce gars-là. Il va devoir le shaker dans ses culottes pour qu'il puisse commencer à s'ouvrir. Et je pense que c'est le cas pour la majorité des gens qui en sont venus à croire en Jésus-Christ. Quelques-uns d'entre vous, vous étiez de ces bonnes personnes qui depuis extrêmement longtemps cherchaient Dieu. Puis on s'entend par bon, d'accord, vous étiez pécheurs, c'est vrai, mais en même temps, pas des gens qui ouvertement sont comme rebelles à Dieu puis en train d'attaquer le christianisme. Mais une bonne partie d'entre nous, nous étions indifférents vers Dieu, fermés contre Dieu, pas besoin de Dieu, certainement pas vouloir que cet être-là commence à diriger nos vies. Et plusieurs d'entre nous, on méprisait carrément l'idée de Dieu même. Dans nos certitudes. Et pour qu'on puisse s'ouvrir, il a fallu que Dieu, dans sa souveraineté, permette des circonstances dans nos vies pour qu'on puisse être ébranlés dans nos certitudes. À travers toutes sortes de circonstances. Paul, ça se fait de manière absolument miraculeuse. Il y a une apparition de Jésus. Ça ne peut pas être plus straight que ça, plus direct que ça. Mais pour plusieurs d'entre nous, c'est à travers des circonstances de vie où Dieu vient ébranler progressivement nos certitudes. Puis à un certain moment donné, tu perds tes repères puis tu commences à t'ouvrir à chercher des nouveaux repères. Et là, il y a une ouverture à ce moment-là. Ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce que vous avez des gens autour de vous qui sont fermés à voir la possibilité que des gens qui ont ces certitudes-là, qui sont arrêtés, qui sont fermés, puissent s'ouvrir à l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus rencontre un intégriste, quelqu'un qui est sûr de toutes ses affaires, puis qui est complètement fermé, puis qui méprise le christianisme? C'est super simple. Jésus l'aime. Quand Jésus rencontre un intégriste, il l'aime. Nous, on est humains, puis notre réaction lorsque quelqu'un est agressif comme ça, puis veut rien savoir, c'est souvent de venir sur la défensive, puis de commencer à dire « Attends un peu, je vais aller sortir les arguments, mon pompon, tu vois. » Christianisme, ça fait ben du sens. Mais avant même d'embarquer dans le débat avec la personne, Jésus aime cette personne-là. Comme Jésus aime tous les pécheurs, Jésus l'aime cette personne-là, parce qu'il la voit dans ses certitudes, et il sait où est-ce qu'il est, il connaît sa faiblesse. Quand Jésus rencontre cette personne autour de vous qui est tellement arrêtée dans toutes ses convictions, qui n'est pas capable d'avoir un vrai dialogue sur le christianisme, sur la foi, quand Jésus rencontre cette personne-là, il l'aime. Il l'aime. Et ces gens autour de vous pour qui vous dites « Je ne vois pas comment ça va se passer parce que j'ai tout essayé. » Jésus aime ces gens-là. Parce qu'il les voit et il comprend leur raisonnement, il sait comment ils raisonnent et il a compassion de ces gens-là. Jésus aime Paul. Et si tu as des gens autour de toi qui sont comme ça, Jésus les aime. Il veut venir vers eux. L'autre chose que je vois dans le passage qui est super importante, c'est que Jésus va faire les premiers pas. Jésus sait très bien que ce n'est pas Paul qui va tout d'un coup se réveiller un matin et qui va dire « Attends un peu, j'en ai éliminé 358. » Puis ils continuent à défendre leur affaire, puis c'est en train de se répandre partout. Fait que peut-être faudrait que j'aille à l'église ce matin. Jésus sait que les certitudes de Paul le rendent aveugle. Et donc Jésus va faire les premiers pas vers lui. Il va venir le rencontrer. Et pour la grande majorité d'entre nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on est capable de dire que c'est Jésus-Christ qui a fait les premiers pas vers nous. J'ai des témoignages de baptême qui me passent par l'esprit ce matin pendant que je dis ça. Qu'on a entendu cette année. Si on veut être honnête avec nous-mêmes, on va reconnaître que c'est Jésus-Christ qui a fait les premiers pas vers nous, qui nous a amené l'Évangile, parce que nous-mêmes, on ne commençait pas à le chercher. Et donc, Jésus va venir rencontrer Paul lui-même. Alors que Paul est en train de le persécuter, de mettre à mort ses disciples, de mettre à mort les gens pour qui il est mort sur la croix, Paul est en train de les poursuivre, les mettre à mort, les jeter en prison, et Jésus va l'aimer, il va faire les premiers pas pour venir vers lui. Et il va lui ouvrir les yeux en le rendant aveugle. Il va lui ouvrir les yeux pour qu'il puisse saisir ce qu'il est en train de faire, sa folie. C'est vraiment la grâce qu'on voit ici. Quand vous nous entendez parler constamment de la grâce, du mot grâce, c'est de ça qu'on parle ici. On parle de Jésus-Christ qui vient vers quelqu'un qui a des idées tellement arrêtées qu'il ne pourra jamais ouvrir son esprit et qui vient vers lui pour pouvoir attirer son attention, l'ébranler et ouvrir sa réflexion pour réaliser qu'il est peut-être complètement dans l'erreur. Et Jésus lui ouvre les yeux pour qu'il connaisse vraiment Dieu. Il commence par le rendre aveugle pour lui ouvrir les yeux et lui révéler la vérité. Au verset 8, on lit, Paul dit, c'est lui qui est en train de raconter, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? » Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Puis ensuite de ça, Jésus lui envoie un chrétien. Il envoie un chrétien vers lui, tout simplement, Ananias. Et Ananias va dire, « Saul, mon frère. » Il s'appelait Saul à l'époque, plus tard, il s'appelait Paul, d'accord? « Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir Jésus le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » Non seulement Jésus l'a aimé, non seulement Jésus est venu vers lui, mais Jésus l'avait choisi pour qu'il puisse entendre la vérité et qu'il puisse le connaître. Puis enfin, Jésus va lui pardonner ses péchés, il va laver de ses péchés. Parce qu'il sait que Paul ne peut pas se transformer par lui-même. Il ne peut pas changer complètement son attitude, arrêter de juger les chrétiens, rejeter le christianisme, voir ses propres péchés, voir que dans son zèle, il y avait une folie aveugle, une haine, une colère. Paul se décrit lui-même comme un meurtrier. Et il a besoin de cette grâce de Dieu où Jésus-Christ va venir lui pardonner tous ces péchés-là. Parce qu'imaginez un moment le désespoir qui se serait emparé du cœur de Paul. Si un homme tellement zélé pour Dieu, tellement zélé qu'il consacrait sa vie à mettre du monde à mort, dans sa tête pour Dieu, imaginez le désespoir qui aurait envahi son cœur si Jésus lui avait simplement dit « Tu es en train de me persécuter, moi le Fils de Dieu. Le Dieu que tu prétends servir, tu es en train de le persécuter. Les gens qui portent mon nom, tu es en train de les mettre à mort. Ciao, bye. » Ça s'est arrêté là. Ce gars-là serait allé se pendre. Mais quand Jésus vient rencontrer quelqu'un, il vient lui faire grâce, il vient lui pardonner ses péchés. Il vient le laver de ses péchés. Alors Ananias lui dit, pourquoi attendre? Pourquoi attendre, Paul? Invoque le nom de Jésus, fais appel au nom de Jésus, celui qui est mort sur la croix, pour tes péchés. Sois lavé de tes péchés, fais-toi baptiser en son nom. Place ta foi en lui. Tu peux entrer maintenant dans une vie nouvelle. Quand Jésus rencontre un intégriste, il l'aime. Il fait les premiers pas vers lui parce que cette personne-là est tellement aveuglée qu'elle n'est pas capable de venir vers Jésus. Il l'ébranle afin de lui ouvrir les yeux et d'ouvrir cette réflexion-là dans son esprit. Il y a des gens autour de vous que vous regardez et priez pour que Dieu intervienne dans leur vie, qu'il vienne ébranler leur certitude. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il lui pardonne ses péchés, il le lave de ses péchés et il le transforme. Paul va dire dans une de ses lettres, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce gars-là avait besoin de ça. Quand tu as consacré ta vie à éliminer des chrétiens, puis tu réalises que c'est eux qui apportent le message de l'amour de Dieu, tu as besoin d'être convaincu que toutes choses sont passées et maintenant tu as une nouvelle vie. Et Jésus-Christ vient et transforme cet homme-là. Il va le transformer. Tantôt, j'ai dit, virer de bout pour bout. Paul va devenir un homme doux. C'est un homme violent. Il va devenir un homme doux. C'est un homme orgueilleux, rempli de ses certitudes. Il va devenir un homme humble. C'était un homme qui, culturellement, à cause de toutes ses convictions, méprisait plein de monde. Méprisait les gens qui ne croyaient pas comme lui. Méprisait certainement les non-juifs pour toute leur ignorance, parce que lui était convaincu qu'il avait la vérité. Parce que les juifs possèdent la vérité, parce qu'ils adorent le seul vrai Dieu. Ce qui est vrai, ce qui ne devrait pas conduire à l'orgueil, mais plutôt à l'humilité. Mais Dieu va transformer cet homme-là, il va devenir humble, il va devenir doux. Puis Dieu va le prendre et va dire, maintenant tu vas aller annoncer l'amour de Dieu. Il va prendre ce gars-là, il va le transformer en un témoin de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour nous, puis il va l'envoyer vers les non-juifs, vers des gens que naturellement il devrait mépriser, parce que les juifs méprisaient les païens, les non-juifs. Il va les envoyer vers eux. Non seulement il va les envoyer vers eux, mais il va les envoyer vers eux, et Paul va souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il s'est dépeint, lorsqu'il s'est décrit, il a pris le temps de dire, les autorités juives ici à Jérusalem savent que j'étais présent au meurtre d'Étienne. Dans l'histoire du christianisme, après la mort et la résurrection de Jésus, il y a un premier disciple de Jésus qui est persécuté, qui est mis à mort, et c'est Étienne, c'est le premier chrétien qui est mis à mort. Parce qu'il est en train d'annoncer la bonne nouvelle, tout simplement, puis les Juifs, dans leur zèle pour Dieu, comme on vient de le décrire, dans cette attitude très, très fermée, ont décidé de le lyncher, de le mettre à mort. Paul était présent ce jour-là, il était là au meurtre d'Étienne. Il était là et il a donné son approbation, il a approuvé la mise à mort d'Étienne. Dans cette section-là, à ce moment-là, Paul est en train de dire, j'étais présent lorsque ton témoin est en train d'annoncer l'Évangile. Lorsque le sang de ton témoin a été versé. Maintenant, le mot qu'on utilise pour témoin ici, c'est martyrios. Ça vous fait penser à quelque chose? Martyr. Le mot martyrios a éventuellement pris un sens nouveau à travers le christianisme parce que les chrétiens qui témoignaient en sont venus aussi à souffrir le martyr. Et donc, sont devenus des martyrs. Et Paul est en train de dire, cette doctrine-là, pour laquelle je faisais couler le sang, bien j'ai été appelé moi-même maintenant à être témoin. et aller annoncer ça. Et mon sang que vous avez fait couler aujourd'hui en me battant puis en voulant me mettre à mort, c'est arrivé des dizaines de fois déjà. Parce que j'ai traversé l'Empire romain à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Jésus-Christ, et je l'ai fait humblement. Et lorsqu'on cherchait à me battre, je ne cherchais pas à rendre coup pour coup. Mais au contraire, je continuais à saisir les opportunités simplement pour annoncer l'Évangile. Quand Jésus-Christ rencontre un intégriste, il le transforme complètement. Il le transforme radicalement. J'aimerais ça inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant maintenant. Ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous encourager parce qu'il y a des gens autour de vous à qui vous avez cherché à annoncer l'amour de Dieu, à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Et ces gens-là sont agressifs à l'égard du christianisme. Sont agressifs à l'égard de votre foi, suivent le courant de l'époque. Aujourd'hui, au nom de la tolérance, on est très intolérant dans notre société. Et donc, il y a des gens autour de vous, vous les trouvez intolérants. Il n'y a plus de dialogue possible. Peut-être que vous avez fait des gaffes, d'accord? J'ai dit au début, évangélisation, point numéro un, évangélisation pour les nuls. Peinturez-les pas dans un coin, soyez respectueux de tous les points communs que vous avez avec eux. Peut-être que vous êtes arrivé avec votre Bible, puis patlard, je vais te dire la vérité. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, mais peut-être que vous avez juste ce que vous méritez par leur fermeture. Mais en même temps, il y a quand même un courant dans notre époque et il y a certainement des gens autour de vous avec qui c'est pas possible d'avoir ce dialogue-là parce qu'il y a un mépris profond pour la foi chrétienne. Je veux vous encourager ce matin. Jésus les aime. Jésus les aime, ces gens-là. Et ce qui fait, vous, qui vous met sur la défensive, Jésus lit au-dessus de ça, au-delà de tout cela, il connaît leur fragilité. Et s'ils viennent à rencontrer Jésus, Jésus va venir saisir leur cœur, les ébranler. Alors, priez pour eux, soyez patients envers eux. Ayez cette foi-là que s'ils en viennent à rencontrer Jésus-Christ, ces certitudes-là vont être ébranlées et leurs yeux vont pouvoir s'ouvrir pour réaliser qu'en fin de compte, ça se peut que Jésus-Christ soit vraiment, vraiment le seul moyen de se rendre à Dieu. Mais peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Peut-être que tu as des certitudes et tu réalises tranquillement que Jésus-Christ vient te rencontrer. La question qui me venait à l'esprit pendant que j'étais en train de préparer le message cette semaine, j'avais le goût de vous demander, est-ce que vous êtes destiné? Paul utilise un terme, c'est Ananias qui dit ça, mais c'est très fort. Il dit, Jésus t'a choisi et t'a destiné à annoncer l'Évangile, à être son témoin. Est-ce que Jésus-Christ t'a destiné à être un de ses témoins? Et si c'est le cas, tu vas le savoir, parce qu'à un certain moment donné, la voix de Dieu va commencer à se faire entendre dans ton cœur. Tes certitudes vont commencer à être ébranlées. Ton cœur va commencer à s'ouvrir et ça peut devenir extrêmement inquiétant. Comme Paul qui est là, qui est terrassé, puis il dit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Parce qu'à un certain moment donné, quand nos certitudes commencent à être ébranlées, ça devient troublant, cette affaire-là. Tu as l'impression que tu es en train de t'avancer vers un vide. Puis tu dis, « Oui, mais j'avais des certitudes, puis elles sont plus là. Est-ce que je dois faire ce saut-là? » Si tu es destiné à être un témoin de Jésus-Christ, tu vas le savoir. Parce que la voix de Dieu va se faire entendre à toi. Ce ne sera peut-être pas de la même manière, d'une manière aussi incroyable que cela, mais tu vas l'entendre. Je t'encourage. Pourquoi attendre? La question d'Ananias est bonne pour toi. Pourquoi attendre plus longtemps? Pourquoi ne pas simplement faire appel au nom de Jésus-Christ? Pour être pardonné de tes péchés. Et qui sait, on va avoir des baptêmes cet automne. Être baptisé au nom de Jésus-Christ pour afficher ta foi publiquement. J'aimerais ça aussi encourager ceux d'entre vous qui vous voyez ce passage-là, vous lisez ce passage-là, puis vous dites, « Ouais, mais attends un petit peu, là. Moi, j'aurais voulu vivre cette expérience-là. » Certains d'entre vous, peut-être vous n'êtes même pas chrétien, puis vous dites, « Attends un peu, Yannick, regarde bien ça. Si Jésus m'apparaît comme il est apparu à Paul, pas de discussion, mon homme. J'ai fini de discuter. Moi, tout de suite, je plie les genoux, c'est correct. » D'autres, vous êtes chrétiens, puis vous dites, « Oui, mais c'est comme pas clair, mon affaire. J'aurais voulu vivre une expérience comme ça. Quelque chose de « wow », de très fort. » Puis de pouvoir regarder en arrière comme Paul, puis dire, « Oui, mais je l'ai vu. » Mais je dirais que Paul avait un appel exceptionnel. Paul était appelé à être apôtre. Paul était appelé à ouvrir les portes littéralement de l'Évangile à des nations étrangères, à voyager partout au nom de l'Évangile, à souffrir au nom de l'Évangile. Paul avait un appel particulier. Et des conversions comme celle-là, des rencontres entre Jésus et un homme comme celle-là, c'est exceptionnel. Ça arrive encore aujourd'hui. On a des récits depuis quelques années de musulmans qui ont des apparitions de Jésus. J'ai pas de misère à croire dans ces choses-là. Je crois qu'il y a un Dieu qui existe, donc Dieu peut faire des miracles. J'ai pas de problème avec ça. Mais ce sont des moments exceptionnels qui se passent dans la vie de certaines personnes. Si Paul était ici, puis il avait à vous parler de sa conversion, puis de ce qu'il y avait de plus extraordinaire dans sa vie, c'est là que je veux vous encourager ce matin. Si Paul était ici, il avait parlé de sa conversion, savez-vous quoi? Il ne vous dirait pas que ce qu'il y a eu de plus extraordinaire dans sa vie, c'est les apparitions de Jésus, c'est les miracles qu'il a fait, ce sont ces affaires-là qui étaient les plus extraordinaires. Ce que Paul vous dirait, ce qu'il y a eu de plus extraordinaire dans ma vie, c'est la transformation que Jésus-Christ a faite en moi. Ça, c'est le miracle incroyable. Parce qu'il m'a transformé, il a fait de moi une personne nouvelle qui est une personne humble, aimante. J'aime les gens que j'haïssais. Je suis prêt à souffrir pour leur parler de l'amour de Dieu. Ça ne me dérange pas qu'ils me méprisent. Je peux me tenir debout devant une foule qui, quelques minutes avant, est en train d'essayer de me lyncher, de me mettre à mort. Et tout ce que je veux, c'est simplement leur dire, je comprends comment vous raisonnez, mais laissez-moi simplement vous parler de Jésus-Christ. Et vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de martyrs. Bien, à l'époque de Paul, puis dans les années qui ont suivi, des apparitions, il y en a eu très peu. Il y a très peu de gens qui en sont venus à croire en Jésus-Christ parce qu'ils ont eu une apparition de Jésus. Mais des gens qui ont été transformés parce que dans les faits, ils ont rencontré Jésus spirituellement, ils en sont venus à la foi en Jésus-Christ, ils ont fait appel à Jésus-Christ. Il y en a eu des milliers et des milliers et des milliers. Et des centaines, voire des milliers d'entre eux sont morts martyrs aussi. Ont eu cette puissance de transformation dans leur cœur. Et on a des toiles classiques, on a des dizaines de tableaux qui dépeignent ça, qui illustrent cela, parce que plein de gens qui n'ont jamais vu Jésus dans une apparition ont quand même été transformés par la puissance de l'Évangile et en sont venus à placer leur foi en Jésus-Christ. Et ces gens-là ont vu cette transformation de vie. Et ont été prêts à aimer les gens autour d'eux au point de souffrir, de mourir dans un arène, d'être mis à mort pour le nom de Jésus-Christ. Alors, si personnellement tu as rencontré Jésus-Christ, que ce soit par une vision ou simplement parce qu'il est venu ébranler ta vie, tu as entendu le message de l'Évangile, ta vie a été transformée, le miracle le plus extraordinaire a été fait dans ta vie. Et tu as l'opportunité aujourd'hui, comme Paul, de te tenir debout devant des gens qui ont des certitudes qui les empêchent d'écouter, de passer par-dessus toutes ces barrières-là et de les aimer. Parce que tu sais que Jésus-Christ a fait les premiers pas vers toi alors que toi, tu étais fermé à l'Évangile. Et Jésus-Christ est venu ébranler tes certitudes et lui, il t'a révélé l'amour de Dieu. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, parce que même si je n'étais pas un homme violent comme Paul, même si ma vie est tellement, tellement simple comparée à celle de Paul, c'est rien. En même temps, Seigneur, je m'identifie avec son orgueil, je m'identifie avec toutes ses certitudes, je m'identifie avec cette fermeture à vouloir laisser Dieu venir bouleverser ma vie, transformer ma vie, la conduire où lui veut, non, où moi je veux, Seigneur. Seigneur Jésus, je reconnais que c'est toi qui as fait les premiers pas vers moi. C'est toi qui es venu vers moi, Seigneur. Et je me rappelle, c'est cette époque dans ma vie où tu es venu ébranler ma vie sur quelques mois, Seigneur. Mes relations, mes rêves d'avenir, mes projets d'avenir. Seigneur, je m'en rappelle très bien, tu es venu les ébranler, les faire tomber un après l'autre. Et tu m'as conduit à un endroit où il n'y avait plus rien de sûr pour moi. Et à ce moment-là, mon cœur était ouvert. Mon cœur était ouvert à ce que tu viennes me rencontrer. Et est-ce que je sois prêt simplement à dire, Seigneur, révèle-toi à moi, je veux te connaître. J'ai besoin que tu viennes laver mes péchés, Seigneur. Et je suis prêt à invoquer ton nom maintenant, à faire appel à ton nom et à porter ton nom, Seigneur. Viens seulement transformer mon cœur. Viens simplement me donner un cœur nouveau qui va être rempli d'amour, qui va être rempli d'humilité. Père, j'aimerais te prier pour ces gens autour de nous qu'on aime tellement et qui des fois sont tellement réfractaires, tellement fermés, il n'y a pas de dialogue possible, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je vois dans ce passage que tu les aimes, que toi, tu vois au-delà de leur fermeture. Ce que je te demande, Seigneur, et ce qu'on te demande, c'est de venir vers eux. On reconnaît aujourd'hui qu'ils ne pourront pas venir à te connaître si toi, tu ne fais pas les premiers pas, Seigneur. Si toi, tu ne viens pas à leur rencontre et on veut plaider en leur faveur, Seigneur, par amour pour eux. Et si dans notre attitude, nous avons nuit à annoncer l'Évangile parce que nous avons, Seigneur, peinturé ces gens-là dans un coin et nous avons été nous-mêmes agressifs, nous-mêmes sur la défensive, aide-nous à apprendre de Paul à être gracieux, à s'identifier, à aller les rejoindre là où ils sont, comme il le fait avec tellement de doigté. Mais même à cela, Seigneur, ça va prendre ce mouvement. Il va falloir, toi, Jésus, que tu te lèves et que tu viennes les rencontrer pour les ébranler, Seigneur, mais afin qu'ils ouvrent les yeux de leur cœur et qu'ils puissent reconnaître que c'est toi le sauveur des hommes, que ce que tu as fait sur la croix est nécessaire pour eux, que ce qui date de 2000 ans est pertinent aujourd'hui pour le pardon de leurs péchés, afin qu'ils soient réconciliés avec Dieu, afin qu'ils soient transformés, deviennent une créature nouvelle, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les personnes ici ce matin qui peut-être entendent ta voix depuis quelque temps, Seigneur. Et ça se passe entre toi et eux, c'est toi qui connais ces choses-là, mais ils ont besoin de toi aujourd'hui, Seigneur. Je veux te prier pour ces gens qui sont peut-être fermés, mais qui en même temps commencent à se poser des questions. Seigneur, viens les éclairer, viens leur montrer la beauté de ton amour. Toi, le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, vivre une vie où tu as accepté d'être méprisé par les hommes, rejeté par les hommes. Tu t'es laissé clouer au bois et sur cette croix, tu as prié ton Père encore une fois et tu as dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Poussé par cet amour, tu as voulu les aimer, Seigneur, et tu veux les laver de leurs péchés, faire d'eux une créature nouvelle, Seigneur. Viens, prends-leur la main. Saisis-le, donne-leur la foi, Seigneur, pour se confier en toi et entrer dans cette vie nouvelle. Oh Seigneur Jésus, tu es extraordinaire et tu nous connais dans notre arrogance, dans notre petitesse, dans nos certitudes, Seigneur. Mais tu es gracieux pour venir nous rencontrer. Je veux simplement te remercier ce matin, Seigneur, de m'avoir ainsi aimé. Je veux t'adorer ce matin, Seigneur, parce que tu as fait ces pas vers moi, Seigneur. Sois béni par nos louanges ce matin. C'est en Jésus-Christ, Père, que nous te prions. Amen.